le journal de Catherine Dutu que je salue. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Son arrestation a provoqué une onde de choc au Japon, séisme dans l'ensemble du monde automobile ressenti jusqu'en France. Carlos Ghosn, qui a bâti l'empire Renault, Nissan, Mitsubishi, a été placé en garde à vue pour fraude fiscale présumée. Sa soudaine disgrâce pose de nombreuses questions sur l'équilibre de l'alliance franco-japonaise.
Ils continuent de cibler les autoroutes et les dépôts de carburant. Les gilets jaunes poursuivent leurs opérations de blocage ce matin. Le gouvernement promet de les déloger.
Au chapitre social, encore une grève des infirmiers aujourd'hui, un appel à débrayer chez Pôle emploi, et puis l'ouverture du congrès des maires de France à Paris, un casse-tête pour l'exécutif et pour Emmanuel Macron en particulier. Comment renouer le dialogue avec les élus locaux?
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, les thèses d'Éric Zemmour et le régime de Vichy, quel est le regard de l'historien? On posera cette question à l'historien Laurent Joly.
Le parquet de Tokyo a confirmé ce matin la garde à vue de Carlos Ghosn. Le puissant PDG de l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi a été arrêté hier au Japon, soupçonné d'avoir dissimulé la moitié de ses revenus entre juin 2011 et juin 2015. Carlos Ghosn n'aurait pas déclaré l'équivalent de 37 millions d'euros. Le point d'orgue peut-être d'un rapport compliqué, décomplexé ces dernières années de Carlos Ghosn à l'argent. L'analyse d'Hakim Kasmi.
Pour Carlos Ghosn, tout commence en 2010, où sa rémunération annuelle de 7,5 millions d'euros chez Nissan est révélée pour la première fois, ce qui vaudra la pique acerbe du premier ministre du Japon de l'époque, Naoto Kan, qui dira, je cite, « Pourquoi est-ce que le salaire de Carlos Ghosn est très élevé? Parce qu'il est très fort pour licencier des gens. » L'année suivante, la rémunération du patron de Renault-Nissan sera même augmentée de 10%, soit 7 fois plus que le président de Toyota, son principal concurrent. Un appétit sans fin pour Carlos Ghosn, qui va cumuler les fonctions de patron de Renault, de l'alliance avec Nissan et même de Mitsubishi depuis le rachat en 2016. Si son salaire fixe n'a pas bougé, il l'a fait considérablement augmenter grâce à la part variable. En 2015, le dirigeant franco-brésilien a touché pas moins de 7,25 millions d'euros, dont 4,2 millions liés à la valeur d'actions performance, ce qui vaudra la colère des actionnaires qui rejetteront son salaire l'année suivante, mais comme leur avis n'est que consultatif, les administrateurs le valideront tout de même, ce qui provoquera la colère d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie et même du patronat. Le MEDEF, présidé alors par Pierre Gattaz, se pourfendra d'une lettre appelant le dirigeant à la mesure. Finalement, ce n'est que cette année, en 2018, que le PDG de l'Alliance verra sa rémunération baisser de 30%.
Carlos Ghosn, désormais poussé vers la sortie par Nissan, il aura bien du mal à se maintenir à la tête de Renault étant donné la gravité des faits qui lui sont reprochés au Japon. Soupçons de fraude fiscale, séisme, je le disais, au sein du groupe automobile qui veut réunir son conseil d'administration au plus vite. Inquiétude forcément chez les salariés du groupe au Losange. Le reportage de Claire Chaudière au Technocentre de Guyancourt dans les Yvelines.
Il a les yeux rivés sur son téléphone qui ne cesse de sonner depuis plusieurs heures.
Je reçois des SMS, il y a beaucoup d'interrogations de la part des salariés.
Pour Jean-François Piboulot de la CGT, cette affaire tombe mal. En pleine transformation de l'entreprise, les motorisations évoluent et les enjeux industriels sont énormes.
C'est un moment stratégique de l'industrie automobile. Ça nous tombe dessus, ça déstabilise l'entreprise. On a beaucoup de choses à changer et on a plutôt besoin...
Encore un appel d'une collègue à la recherche d'informations. Ce qui est sûr, c'est que ce qui va se jouer à partir de maintenant est crucial à qui est Christophe Delaine, élu au CE pour le syndicat Sud.
Comment cet attelage peut se reconduire sans Carlos Ghosn? Peut-être que Nissan va prendre le contrôle de Renault. Après que Renault ait sauvé Nissan, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question d'après.
À la sortie d'un atelier de logistique, la question de l'avenir est bien là.
C'est pas bon pour le groupe. Avec le Dieselgate, on parlait déjà de Renault.
La planète Renault, là, ça va vrombir dans tous les sens.
Mais les salariés ne veulent pas non plus dramatiser.
Pour moi, Renault va pas s'écrouler comme ça. C'est pas ça qui ferait qu'il casserait. C'est une multinationale. Il y a plein de petits Carlos Ghosn dans l'ombre.
Thierry Bolloré, par exemple, nommé en février directeur général adjoint, autre certitude partagée par la plupart hier soir à la sortie du Technocentre, l'État français actionnaire devra jouer un rôle important.
Du côté des autorités françaises et japonaises, un seul mot d'ordre, la stabilité à tout prix de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. C'est ce que prône Emmanuel Macron et le ministre de l'Industrie japonais. Il est 7h05 sur France Culture. 200 poids lourds bloquent l'entrée de l'autoroute A7 dans le Vaucluse, à hauteur de Bolène. Barrage filtrant, par ailleurs à Nîmes, avant d'entrer sur la 9. C'est le quatrième jour de mobilisation des Gilets jaunes. Visiblement pas convaincus par l'appel lancé hier soir par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. appelle à respecter la libre circulation. 27 000 manifestants hier et ce matin, des gilets jaunes bloquent aussi le dépôt pétrolier de l'Espinasse en Haute-Garonne, barrage filtrant encore à l'entrée de Rouen depuis l'autoroute A13 dans le sens Caen. Paris. Et puis à Nonancourt, dans le sud de l'Eure, sur la Nationale 12, entre Paris et la Bretagne, des dizaines de personnes se relaient pour bloquer un rond-point. Le reportage de Delphine Evenou.
Sur le rond-point, une équipe de nuit et une équipe de jour se relaient depuis samedi. De temps en temps, un voisin vient donner un coup de main.
J'habite pas très loin, il y a une fille qui a lancé une alerte sur Facebook, on en a des couvertures et voilà, j'en ai deux, ben je les ramène.
De la viande, du pain, du café apporté aussi pour l'aide matérielle. Pour le soutien, il y a les routiers, concerts de klaxons et appels de phare. Même si certains sont fatigués, pas d'hostilité.
Il faut faire être à la maison quand même que d'être là bloqué dans le camion, mais bon, on a des fins de mois qui sont difficiles aussi, hein. Il est cher, après, est-ce que c'est la bonne méthode? Je sais pas, mais bon.
Il y a moins de monde désormais sur les barrages, mais plus de perturbations. Pour les gilets jaunes, le mouvement prend de l'ampleur.
On a les infirmières qui vont arriver, et là on est même en contact avec des agriculteurs qui attendent juste notre départ pour arriver, quoi. Pour bloquer avec nous, donc nous on lâchera pas. Personnellement, je peux être là pendant des semaines, hein, et on est plusieurs à être d'accord sur ça.
Car Angélique est chômeuse. Comme les retraités, elle dit n'avoir plus rien à perdre. D'ailleurs, ceux qui ont un crédit aussi appellent à jeter toutes les forces dans cette bataille.
La France aujourd'hui ne doit plus travailler, c'est tout. Ne doit plus rien faire, bloquer. On est pris à la gorge tous les mois. Faut que ça soit l'anarchie pour qu'ils comprennent.
Ici, ils sont peu à croire à un geste du gouvernement, mais il y a autant de pessimisme que de détermination à demander de meilleurs salaires, moins de taxes et moins de mépris aussi.
Des gilets jaunes aux blouses blanches, manifestations et grèves aujourd'hui des infirmiers et infirmières qui se sentent oubliés du plan santé du gouvernement. Ces organisations réclament une meilleure reconnaissance de leur profession, de meilleurs salaires, davantage de moyens humains, davantage d'autonomie aussi dans les hôpitaux. C'est le reportage de la rédaction à suivre à 7h24. Au chapitre social encore, les agences Pôle emploi risquent de tourner au ralenti aujourd'hui. 7 syndicats sur 9 appellent les salariés à débrayer pour protester contre des suppression de postes, 600 cette année, 800 encore l'an prochain. Pour les syndicats, la coupe est pleine, Sarah Lemoine.
Nadège travaille dans une agence Pôle emploi en Île-de-France. C'est la plus grosse de son département. Aujourd'hui, elle est en grève parce que les salariés qui s'en vont ne sont pas remplacés, les CDD qui passent ne sont pas embauchés et que la dématérialisation d'un certain nombre d'actes, dit-elle, ne peut pas régler tous les problèmes des demandeurs d'emploi.
Le système informatique, l'outil informatique ne peut pas faire tout seul. En cas de dossier complexe à étudier, il y a aussi des humains derrière, il en faut. Et il faut qu'on puisse traiter le dossier aussi de bout en bout. Il ne faut pas croire que parce que tout est dématérialisé et que maintenant il y a beaucoup de supports numériques, que tout va être simplifié et qu'on aura moins besoin de personnel.
Pour justifier la suppression de 800 postes l'an prochain, le gouvernement invoque la baisse du nombre de chômeurs sans aucun emploi depuis un an, ceux inscrits en catégorie A, un argument balayé par les syndicats. La hausse est de 0,7% si on ajoute tous ceux qui jonglent entre petit boulot et chômage. Et donc la charge de travail ne baisse pas, disent-ils. Elle doit même augmenter avec les nouvelles missions qui se profilent à l'horizon. Ouverture de l'assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires et triplement des effectifs chargés du contrôle de la recherche d'emploi via des redéploiements internes.
Et quand les syndicats déplorent la baisse de moyens alloués aux services publics, eux se retrouvent en première ligne face à des administrés qui se plaignent de ne pas trouver des services dignes de ce nom. Les maires de France tiennent leur congrès annuel à partir d'aujourd'hui à Paris, déçus de ne pas voir Emmanuel Macron venir comme il l'avait promis l'an dernier, mécontents plus généralement de la politique du gouvernement. On y revient dans le journal de 7h30. Il est 7h09 sur France Culture. Arrêtons-nous à présent sur la Journée internationale des droits de l'enfant avec un focus cette année sur la situation des moins de 6 ans en France, auquel la défenseure des enfants consacre son rapport annuel, Hélène Chevalier.
Ils sont souvent considérés comme invisibles. Dans son rapport, la défenseure des enfants met en avant de nombreux exemples où les droits des moins de 6 ans sont mal, voire pas du tout pris en compte. Geneviève Avenard note par exemple avoir été régulièrement saisie pour des cas de très jeunes enfants enfermés avec leurs parents dans des centres de rétention. Citant l'exemple de ce bébé de 7 mois, la préfecture a estimé que son âge ne lui permettait pas de comprendre la situation et donc que l'enfermement n'aurait pas de conséquences sur son évolution psychologique, une méconnaissance grave des besoins de l'enfant, estime Geneviève Avenard.
Les enfants ont une conscience et une compréhension dès leur naissance de l'environnement dans lequel ils vivent. Donc on ne peut pas dire que ça n'a aucun effet sur eux. Et donc nous recommandons avec fermeté que les enfants ne soient pas accueillis en centre de rétention administrative avec leur famille.
Autre point sur lequel la défenseure des enfants recommande fortement à l'État d'agir, l'interdiction par une loi des châtiments corporels, également appelés les violences éducatives ordinaires.
L'humiliation, les mots peuvent blesser aussi les enfants et entraîner des pertes d'estime de soi, de confiance de soi et avoir des répercussions sur leur devenir et sur leur épanouissement aujourd'hui et demain.
Une proposition de loi sur le sujet sera justement étudiée par les députés en fin de semaine prochaine.
Accord et désaccord au Royaume-Uni après s'être montré très critique envers le texte sur le Brexit négocié par Theresa May avec Bruxelles la semaine dernière. Le parti unioniste nord-irlandais DUP n'a pas voté hier le projet de loi de finances du gouvernement comme un avertissement à la première ministre britannique car les voix du DUP sont indispensables à Theresa May pour avoir la majorité au Parlement. La première ministre peut en revanche compter sur le soutien des chefs d'entreprise depuis un discours hier devant la principale organisation patronale britannique, la correspondance à Londres d'Antoine Gignot.
À la tribune, elle parle de chaînes d'approvisionnement, de stocks, de détails techniques et de salaires. Theresa May, enfin convaincante pour Michael Sipit, présidente de la société de services juridiques Clarks Legal.
Mon sentiment, c'est que les hommes d'affaires sont rassurés parce qu'il y a un plan qui pourrait fonctionner. Ce n'est pas forcément le meilleur résultat qu'on pouvait obtenir, mais ça peut marcher pour le commerce britannique. Il faut que tout le monde se penche là-dessus et qu'on trouve un consensus au Parlement.
Pour l'instant, rien n'est joué et le pire des scénarios pour Wayne Harvey du cabinet Deloitte, ce serait le départ de Theresa May et une sortie de l'Union européenne sans aucun accord commercial.
Il y a une gigantesque incertitude. Elle a parlé de manière très positive, bien présenté le dossier, donné beaucoup de détails. Mais ce qui va se passer au Parlement, c'est une autre histoire. Et les prochaines 48 heures vont être très importantes pour elle.
Car il ne manque au clan des frondeurs que 3 ou 4 députés de plus pour déclencher un vote de défiance.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Le temps de ce mardi 20 novembre, marqué par un premier épisode neigeux en pleine autour de Paris et dans la région lyonnaise. Le Rhône a été placé en vigilance orange d'ailleurs pour neige et verglas. Partout ailleurs, alternance de grisailles, d'éclaircies et de pluie. Côté Mercure, de petites gelées ce matin sur la moitié nord du pays ainsi qu'en Aquitaine. Partout ailleurs, les températures sont comprises entre 2 et 10 degrés de l'intérieur des terres vers les côtes.